Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute.
Eh bien, on a appris hier soir avec tristesse le décès de notre amie, une ancienne collaboratrice à l'émission, chroniqueuse à la presse, Louise Cousineau, qui s'est éteinte à l'âge de 86 ans.
Des suites d'une infection pulmonaire, et c'est une grande, grande dame des médias. Elle a travaillé à la presse pendant près de 45 ans aussi à TV Hebdo, a fait des chroniques à la radio, a s'écassé avec Paul Arcand, évidemment, ici aussi au 98.5. Et c'est vraiment une femme entière à qui l'on doit et à qui je dois aussi beaucoup parce qu'elle a été une critique redoutable, une femme qui a eu un impact majeur sur l'industrie de la télévision, mais des médias aussi en général. Puis même si on lui faisait beaucoup, beaucoup de courbettes, les producteurs, les programmateurs, les gens de Radio-Canada, de TVA et compagnie, ça n'a jamais changé son opinion. Elle était juste, pensait toujours aux gens, au public, en écrivant ses critiques. Et il y a plusieurs beaux messages qui sont arrivés sur les réseaux sociaux dans les dernières heures. On a parlé d'une femme passionnée, intègre, honnête, qui se tenait debout, un électron libre, pas dans la rectitude politique. Et Stéphane Laporte a écrit quelque chose de vraiment magnifique. Louise Cousineau faisait de la télé un roman, un téléroman dont chacune de ses chroniques était un épisode. Et si jamais la vie éternelle est plate, Dieu va se le faire dire. Je pense que ça résume très bien Louise Cousineau. Et à la radio, où elle a sévi quand même avec toi pendant de nombreuses années, j'ai fait un court résumé de quelques moments marquants de ses chroniques.
Il y en a eu pas mal.
Madame Louise.
Monsieur Paul, avec le karma de Mirabelle, qui croit à ça? Dès qu'on dit Mirabelle, il y a un désastre. C'est toujours le même problème au gala des Oliviers. Trois discours en ligne de Jean-Marc Parent, Paul. Trois discours de remerciement plate. Mais là, là, quand le Canadien joue, tout le monde devrait avoir le droit de le voir. Le monde t'a prévenu fou, même moi! Mais moi, Paul!
Je le sais, vous m'étonnez!
Mais ce qu'il y a de bon, Paul, dans cette émission-là, c'est que pendant une demi-heure, on voit du monde de bonne humeur à la télévision. Ça, c'est rare. Tu sais, parce que tu regardes les nouvelles, ça va mal. Tu regardes les émissions de chialage, ça va en compliment. RBO qui va se remettre ensemble. Ils n'ont jamais été très éloignés, mais ça fait longtemps qu'on les a vus. Hein. Est-ce qu'ils vont être dans la rectitude politique actuelle? Parce que, tu sais, on n'a pas à dire le temps, ça fait des crevasses un peu partout.
Très bien. Merci, Mme Louise. À demain.
Ben.
Ah non, écoute, je pourrais t'en compter jusqu'à 10h30, 11h, 11h30, midi là, avec Mme Louise.
Beaucoup d'anecdotes, évidemment.
Oui, oui, oui.
Elle adorait parler de télé, mais de ses passions, le hockey, de ses chiens
écoute,
aussi.
Écoute, j'ai une anecdote très rapide. Là. Un jour, elle arrive à l'antenne et explique qu'elle fait de la soupe pour son chien. Et elle donne sa recette. Je m'en souviens pas, là. Et je te jure, elle donne la recette, vous faites ça, puis gna gna gna. Puis bon, une recette de soupe pour chien. Ça a été... Comme on dit, là, les lignes ont sauté. Tout le monde voulait avoir la recette de chien, de soupe au chien de Mme Louise.
Ça ne m'étonne pas. Elle a été son amie et oui. Jusqu'au dernier moment, elle a été avec elle et elle a beaucoup de commentaires et sûrement plein d'anecdotes à nous raconter également. Ancienne députée Claire Sanson, bonjour.
Bonjour, bonjour à vous. Bonjour. Ben... Monsieur Paul.
Madame Claire, j'ai quelque chose à vous demander en partant. Puis je veux le dire, là, vous l'avez accompagnée jusqu'à la fin, vous avez été son aidante. Puis c'est important de le dire parce qu'il y a beaucoup de gens âgés qui se retrouvent seuls, ce qui n'a pas été son cas grâce à vous. Mais est-ce que cette femme-là a réalisé l'impact qu'elle a eu sur des gens du métier puis sur le public en général par ses commentaires, par ses critiques?
Ben, je pense que oui, il y a beaucoup de gens qui lui rappelaient régulièrement qu'elle avait été méchante ou fait une mauvaise critique. Ben, je pense qu'elle refusait de reconnaître son influence. Louise, la chose qu'elle préférait dans la vie, c'était aimer la télévision. Quand on lui faisait visionner une émission qu'elle aimait, ça la rendait excessivement heureuse.
Elle m'a dit un jour, quand je commence à regarder une émission, j'ai envie d'aimer ça. Je voudrais aimer ça. J'arrive disposé en me disant, ça va être bon. C'est sûr qu'il y en a qui m'ont déçu, que j'ai pas trouvé ça bon, mais elle avait une approche assez ouverte en tenant compte du public. Mais...
Oui, je pense que Louise était... D'abord, Louise, c'est une femme, était droite comme une flèche. Hein? Alors, Louise, quand elle arrivait en visionnement, qui commençait juste quand elle arrivait, tout le monde l'attendait. Et elle arrivait bien disposée. Et généralement, si elle avait eu son stationnement et son cendrier, elle était de bonne humeur.
Mais elle l'a dit quand même dans certaines entrevues, Mme Samson, que ça devait pas toujours être simple quand même, parce que quand elle faisait une mauvaise critique, que ça paraissait le lendemain dans la presse, par moments, elle avait de la difficulté à dormir. Est-ce que ça l'atteignait quand même personnellement, ce genre de commentaires des gens, les critiques? Parce que on sait qu'au Québec, des fois, on a de la difficulté avec ça, la critique, là.
Oui, mais Louise, elle voulait pas faire de peine à personne, mais elle voulait pas mentir à ses lecteurs. Alors, si... Puis Stéphane Laporte a bien raison. Il est mieux d'avoir des bons shows en haut parce qu'il y en a qui vont se faire blaster.
Mais, alors. Non, mais j'allais dire, ce qui est extraordinaire, ce qui est, je parle au présent, là, mais avec Louise, c'est qu'elle avait cette capacité d'écrire en fonction vraiment du public en disant ça marche pas. Le monde, elle me disait ça tout le temps, Paul, ça, le monde va aimer ça et voici pourquoi. Il y avait un argumentaire, là, c'était pas juste un sentiment, là.
Écoutez, M. Arcan, moi, Louise, elle m'a traîné dans toutes les ventes de garage qui se faisaient à Autune et à Saint-Lazare. Et elle achetait toutes sortes de cochonneries, mais c'était pas le cendrier qu'elle voulait, c'était l'histoire du cendrier.
Exact. Ça, c'est vrai.
Alors,
c'est vrai.
On pouvait rester dans une vente de garage 45 minutes, puis là, les anecdotes s'enchaînaient, puis tout ça. Et puis, finalement, des fois, le monde nous invite à dîner.
Merci beaucoup, Claire. Et bravo pour ce que vous avez fait avec Louise. Ça a été, je pense, bien, bien important pour elle.
Oh, j'ai beaucoup de bons souvenirs. Et honnêtement, M. Arcan, vous l'avez connue. Et si vous l'avez connue comme moi, elle était vraiment pas bien ces derniers temps. Et je pense que c'est ce qu'elle aurait voulu, partir doucement dans son sommeil, près de ses petits-fils.
Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Au revoir. Claire Samson. Écoute, juste une... J'en ai des anecdotes. À un moment donné, elle dit, je me suis acheté un chien. Je dis, OK, il s'appelle comment? Elle dit, chien. C'est comment un chien?
Chien.
Elle a appelé chien?
Oui.
Chien.
Oui. C'est... Il y avait Emma aussi.
Aussi. Benji.
Oui, il y en a eu plusieurs.
Ah non, il y en a eu... Mais la soupe au chien, là. Je vais essayer de retrouver la recette quelque part. Je suis sûr que ça existe.
Pour
là.
Chien, hein? Pas au chien.
Non,
pour chien.
Non, la pour chien. Oui. La soupe pour chien.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. De retour après la pause.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcan.
Pourquoi on parle de ça, là? Parce que vous connaissez cet homme. On a besoin de votre témoignage lors de son procès pour trahison et crime de guerre.
La guerre est finie, Major.
Mais vous êtes le meilleur agent du service secret canadien.
X-13, une mini-série qui est disponible au Club Illico. Je reçois ce matin Marc-André Grondin. Bonjour.
Bon matin.
Je sais que la critique est unanime, là, j'ai fait le tour, là, mais c'est vrai que c'est très bon, X-13. Et je te disais à micro fermé, c'est un peu comme un mélange d'un film, puis en même temps d'une espèce de BD qui fait penser à Dick Tracy. Oui. Des personnages hyper colorés, très campés. Là.
Oui. Oui, on a vraiment un hybride entre quelque chose de ancré dans une réalité historique puis une bande dessinée. T'sais, y a un côté... Inglourious Basterds, Peaky Blinders, il y a un côté sale un peu plus là, mais on n'est pas dans, on est dans quelque chose de léché mais de sombre. T'sais.
C'est l'histoire d'un espion canadien. Un vrai, ça a été créé à l'époque par Pierre Desgnaux, puis on a vu la version des cyniques, ça n'a rien à voir. On est complètement...
Rien
là-dedans. Mais de jouer un personnage comme ça, d'espion, de vedette des services de renseignement, qui a eu une carrière à l'étranger, qui a fait des missions, puis on découvre durant les épisodes, et en même temps d'être ici puis de voir des néo-nazis se promener, puis c'est quelque chose comme personnage à jouer, ça.
Ah, c'est un gros trip. C'est vraiment un gros trip parce que, ben, évidemment, il y a tout ce qu'on dit de X-13, mais, tu sais, moi, je joue Jean Thibault, qui est le vrai nom, là, de l'agent X-13, qui est un ancien soldat qui a vécu des choses traumatisantes, qui a vu des choses traumatisantes, puis qui a un stress post-traumatique, puis qui a une fragilité à l'intérieur de lui, enrobé de plein de couches de protection. C'est un personnage qui est dur, qui est solide, mais qui est brisé à l'intérieur. T'sais.
Pourquoi t'as accepté de jouer ce rôle-là?
Ben, à la base, le réalisateur Yann Lanouette-Turgeon et le directeur photo Jonathan Decoste, ben Yann me contactait en premier, puis il me dit, j'ai un autre projet avec Jonathan Decoste, avec qui moi j'ai fait l'imposteur, ce binôme-là. Puis moi, je voulais tellement retravailler avec eux. Là. C'est des gens de grands talents. C'est des super humains. Donc, j'étais un peu vendu d'avance. Puis évidemment, quand j'ai commencé à lire, je me suis fait prendre par l'histoire, tout ça. Puis le contexte historique, moi, je suis pas un fan d'histoire juste pour jouer de l'époque. Mais je le savais que de jouer 1945 à Montréal, entre les mains de Yann Lanouette-Turgeon puis de Jonathan Decoste, ça allait être spécial. Il allait avoir quelque chose qu'elle aime parler à moi en tant que téléspectateur, tu sais. Ils ont vraiment une approche différente.
Là. Revoir Montréal du red light puis des bars que j'ai pas connu, toi non plus, mais on a vu des séries puis on a lu puis je me souviens de Siri à Radio-Canada qui nous amenait dans cet univers-là unique. Là. Mm-hmm. C'est quelque chose quand même. Et j'allais dire, de faire une série d'époque au Québec, dans le contexte budgétaire actuel, c'est un tour de force. Là.
Ah, c'est vraiment un tour de force. Puis je suis très heureux de ne pas avoir été producteur là-dessus parce que
j'aurais perdu de l'argent.
J'aurais perdu encore plus de cheveux. Mais non, ça a été vraiment un tour de force. Puis je pense que ça prenait beaucoup d'audace de la part de se faire, d'embarquer dans ce projet-là, là, qui a été écrit par Gilles Desjardins, de la part de Québécois aussi, de la part du réalisateur. Je pense que tous les départements ont eu ont fait preuve de beaucoup d'audace et beaucoup de passion pour embarquer dans ce projet-là, puis en donner autant parce que, tu sais, veux pas, on avait un gros budget par rapport à d'autres séries, mais on a un budget très petit pour faire de l'époque avec toutes les aspirations qu'on avait visuelles et je pense que tous les départements se sont surpassés et ont fait un travail extraordinaire, puis ça sent à l'écran parce qu'on a un produit qui a l'air... Écoutez, les Européens ou les Américains font le même genre de série. Ils ont 4-5 fois notre budget, puis ça n'a pas l'air nécessairement plus beau, là, au contraire.
Quel genre de personnage t'aimes le plus jouer? Quel type tu veux pas jouer?
Je ne sais pas le type que je veux pas jouer. Là.
Mais je te donne un exemple. Il y a un film qui sort en France qui raconte l'histoire de Gabriel Mazenève qui a abusé de jeunes filles.
Ouais.
Et le film sort demain ici. Le personnage qui joue, l'acteur qui joue Mazenève, va jouer des scènes de proximité avec des adolescentes. Puis c'est un personnage, tu regardes ça, il est dégueulasse. Tu sais, je voyais l'acteur qui disait, j'ai lu le texte, je savais dans quoi je m'embarquais, puis j'assume. Mais il y en a d'autres qui voulaient même pas lire le texte, voulaient pas avoir à jouer ce rôle-là.
Ben ça s'est jamais présenté à moi là, ce genre de rôle là, puis je pense que j'ai lu que Jean-Paul Rouve avait quand même trouvé ça difficile pendant le tournage là. Il y avait un côté un peu traumatique là à tout ça. Mais je pense qu'il y a toujours un défi. Tu sais, quand j'ai fait Mafia Inc., on découvre le personnage, puis il est en train de tuer 25 enfants, tu sais, puis les remplir de drogue. Fait que tu sais, il y a quand même un défi de ce côté-là à rendre ce personnage-là, ben, je dirais pas attachant, mais de créer un lien avec le public. Fait que je pense que jouer quelque chose de plus simple, c'est pas nécessairement plus gratifiant, mais faut le sentir. Je pense que quand un personnage se présente à toi, tu sais, moi, je pourrais me faire offrir quelque chose aujourd'hui, je dirais non, mais dans 2 ans, je dirais oui, tu sais, juste parce que psychologiquement, je suis peut-être plus apte, puis j'ai l'impression que je l'ai peut-être plus facilement, mais dans le cas du personnage de Jean-Paul Rouve, je sais pas ce que j'aurais fait. Je sais pas. J'ai pas vu le film encore, mais ça a l'air très très lourd de chez lourd.
On va parler de cinéma, le successeur. Mm-hmm. Je sais pas s'il y a une tendance, mais il y a des films-séries sur les créateurs de mode. Il y en a un sur, je pense, Dior, Saint-Laurent.
Ouais, bref, ouais,
ouais. Et là, tu joues donc cette star, finalement, de la haute couture qui s'est envolée vers la France puis qui a un passé au Québec qui le rattrape.
Ouais, mais c'est pas un film sur la haute couture.
Non,
c'est ça l'affaire, c'est que moi j'ai passé quelques mois à dire à ma mère justement, non, c'est pas un film sur la haute couture, c'est quelque chose de beaucoup plus anxiogène puis plus lourd que ça. Tu sais, c'est le film commence puis ça nous emmène à un endroit qu'on soupçonnait pas du tout. Ça, c'est un thriller, c'est déstabilisant, c'est déroutant, ça malmène le public. Puis je pense qu'en tout cas, ce que je vois puis ce que j'ai comme retour, c'est ce que les gens cherchent au final au cinéma. C'est à être mis dans une situation inconfortable, c'est à vivre quelque chose, de pas être juste là, lobotomisé, à regarder une histoire. Mais là, les gens, ils vivent physiquement quelque chose pendant l'heure et demie que le film dure, puis en sortant de là, ils ont envie d'en parler. Puis, tu sais, ils disent aux gens, allez le voir, parce que j'ai hâte d'en parler avec vous autres. Je vous dirai rien, mais c'est ça, tu sais. Mais ça, c'est un film lourd, justement, aussi. Là. Ça a été... moi, il y a un côté de moi qui était très déstabilisé pendant le tournage, parce que je pouvais m'imaginer la noirceur que le personnage pouvait avoir, puis jusqu'où il pouvait aller, mais le réalisateur m'emmenait toujours plus loin, puis tu sais, quand je pensais que le fond du baril était 6 pieds en dessous de moi, lui, il faisait « Non, il est 25 pieds en dessous de toi », puis il m'emmenait toujours, toujours plus loin. Puis ça, c'est quand même un cadeau pour un acteur d'avoir un réalisateur qui te repousse toujours plus loin, parce que ça t'emmène ailleurs, tu sais.
Mais c'est ce côté, j'ai pas vu le film là, mm-hmm. mais ce que j'en lis, puis tu me diras, c'est ce côté de la noirceur, puis des relations, du non-dit, puis de découvrir un paquet de trucs, puis d'être confronté à un certain passé aussi, que le personnage a l'air d'avoir fui quand même.
Ouais, ben en fait, il y a beaucoup, beaucoup de couches à l'interprétation de ce film-là. Tu sais, c'est Xavier Legrand, le réalisateur que coécrit avec Dominique Parenteau-Leboeuf, c'est vraiment inspiré de la tragédie grecque. Donc, c'est une tragédie grecque. Il y a tous les codes de la tragédie grecque. On est proche d'Oedipe, on est proche d'Hamlet. Donc, ça peut être déroutant pour le public parfois, parce que scénaristiquement, il y a quelque chose de quasiment invraisemblable, mais la tragédie à l'époque de la Grèce antique, c'était là pour montrer aux gens qu'est-ce qu'il faut pas faire. Donc, c'est pas là pour te montrer ce que toi, tu ferais nécessairement. Mais c'est un film aussi sur l'image, la construction de l'image. T'sais, c'est un personnage qui grandit en banlieue de Montréal, qui décide de partir en France. Il change son accent, il change son prénom. Il se crée littéralement un personnage dans ce milieu de haute couture-là, puis il atteint le sommet. Puis au moment où il atteint le sommet, il doit rentrer au Québec. Et là, ben, s'ensuit une suite de découvertes qui font en sorte que, ben, son personnage s'écroule. Et lui va tout faire pour essayer de sauver son image, justement, parce que c'est dans un milieu où l'image est tout, surtout dans le milieu de la mode.
En terminant, le cinéma français passe par la tourmente des dénonciations de réalisateurs, d'acteurs. Bon, Depardieu, mais il y en a d'autres, les Césars demain et tout ça. Comment tu vois ça, ce qui se passe actuellement avec le cinéma en France?
Ben c'est très sain. Je pense que il était temps que certaines personnes prennent parole pour faire changer les choses. Je pense que c'est plus lent en France aussi parce que culturellement, ils ont un rapport. C'est très hiérarchisé en France. Dans le milieu du cinéma, ben c'est le milieu que je connais là. C'est excessivement hiérarchisé. On a peur des gens de pouvoir. On leur donne carte blanche à faire n'importe quoi. Donc, moindrement que t'as une attitude mauvaise, mais là, t'as vraiment un terrain de jeu extraordinaire pour devenir encore plus mauvais. Je l'ai vu quand j'ai travaillé avec Depardieu même, je me souviens, il était très excité à l'idée de faire un film dans lequel j'étais. On s'était vu en prep, puis il était vraiment excité, puis on arrivait la première journée de tournage, puis il s'allumait une cigarette dans le corridor du studio, puis on lui a dit « Ah non, vous avez pas le droit de fumer. » Puis il a juste dit « Ah non, j'ai pas le droit de fumer ici. » Allons, monsieur, ben oui, 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 vous pouvez fumer. Mais là, déjà, tout le monde s'écrase devant lui. Donc, lui, il a comme un peu un terrain de jeu pour faire ce qu'il veut.
Il peut dire ce qu'il veut, faire ce qu'il veut.
Exactement. Puis je pense que certaines personnes voient plus les limites, puis transgressent ces limites-là pendant longtemps. Puis là, ben, les gens se réveillent un peu. Puis il y a quelque chose de sain, parce que oui, il y a un rapport au pouvoir. Puis les rapports hommes-femmes sont quand même assez différents là-bas qu'ici. Là.
Beaucoup, je pense.
Oui, malheureusement. Évidemment, moi, j'ai pas vécu, puis j'ai malheureusement ou heureusement l'avantage d'être un acteur homme. Donc, mes rapports avec les hommes acteurs étaient très différents. Mais oui, il y a rien de ce que je lis qui me surprend là, absolument pas, malheureusement.
Merci beaucoup d'être venu ce matin.
Ben, merci.
Donc, le film, enfin la série X-13 s'est présentée sur Club Illico. Deux épisodes, puis il y a deux autres qui s'ajoutent. Là,
à chaque jeudi, oui.
À chaque jeudi. Et le film Le successeur, Marc-André Gondrin. Merci d'être venu.
Merci beaucoup.
On revient sur les données de l'inflation qui ont été rendues publiques hier. Donc, le taux passe sous les 3 % 2,9. La facture d'épicerie, je sais que ça vous concerne beaucoup, ça augmente encore, mais moins rapidement. J'en parle avec notre ami Sylvain Charlebois. Monsieur Charlebois, bonjour.
Bonjour, Paul.
Est-ce que c'est l'effort combiné des moyens déployés par le ministre François-Philippe Champagne, une meilleure concurrence, ou c'est le jeu du marché qui fait que ça augmente moins vite?
J'aimerais ça vous dire que c'est Ottawa, c'est l'œuvre d'Ottawa, mais pas du tout, là. En fait, c'est le contraire. Je pense qu'Ottawa a nuit à l'effort du marché. Mais dans le fond, il y a un an, Paul, le taux d'inflation alimentaire était au-dessus de 11 %. Et on s'attendait à une baisse là, continue, puis on croit que le taux d'inflation alimentaire va continuer à diminuer. Là, il y a une baisse de 1,1%. On n'a jamais vu ça depuis mai 2016.
Wow.
Quand même. Là. Fait que les choses se calment. Puis quand on parle, quand on discute avec différentes entreprises agroalimentaires, la chaîne d'approvisionnement est plus prévisible. Les marges sont disons plus prévisibles aussi. Donc ça veut dire pour nous tous qu'on va avoir plus de rabais au magasin. Là.
Mettons que j'ai l'esprit tordu, je me dis ils ont assez rempli les coffres pendant les 12 derniers mois que là sur des prix déjà très élevés puis parfois avec des quantités moindres, ben là ils en prennent un peu moins, ils sont un peu moins gourmands.
Ben je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pensent ça, mais quand on regarde les bilans financiers, disons qu'au niveau de l'abus, il n'y a pas d'indication comme quoi les bannières ont exagéré. Par contre, les coûts, la structure des coûts a changé depuis 2-3 ans. Là. Ça coûte beaucoup plus cher, mais faut revenir au problème à la base, même avant l'inflation, même avant la tempête inflationniste, il y avait déjà des problèmes au sein de la filière. Il y a beaucoup de chicanes entre les bannières et les fournisseurs, ce qui fait en sorte que ça gonfle les prix au détail. On s'en rend pas compte, comme le fameux blackout, on s'en est déjà parlé. Mm-hmm. Le blackout, là, les prix sont beaucoup plus volatiles en novembre et février. Pourquoi? À cause du blackout. Là, on vient d'apprendre que l'Oblast, Métro et Sobeys vont augmenter le frais parce que quand on vend à ces bannières-là, il faut les payer. Ces frais-là augmentent. Qu'est-ce que vous pensez qui va arriver, Paul? Les prix vont augmenter en amont, puis nous, on se fait ramasser à l'épicerie. Donc, c'est ce jeu de chat et la souris qui doit cesser au sein de la filière pour, disons, cesser de voir les prix augmenter tant que ça. Là.
Comment ça se fait qu'il y a une baisse des coûts, là, du prix là, pour la soupe, le bacon puis les crevettes?
Ben c'est des chaînes qui sont plus prévisibles. Ça dépend. Ben, dans le cas du bacon, c'est du porc. Le porc, les prix ont diminué pas mal. Dans le cas des produits en canne, disons que les variables sont plus prévisibles aussi là. Donc c'est pour ça que chaque produit a son histoire, mais dans le cas là actuellement, ce qu'on voit, c'est les légumes. Les légumes augmentent beaucoup, c'est en hiver, c'est normal.
Ouais.
Mais à part de ça, il n'y a pas d'autres sections de l'épicerie où ça pose problème. Là.
Par exemple, la viande, par exemple, les fruits, les oranges, il me semble que c'est moins cher que c'était.
C'est parce que les oranges ont augmenté beaucoup l'année passée. Okay. À cause, il y a eu un gel précoce en Floride, là. Ça l'a fait gonfler le prix des agrumes, mais cette année, c'est moins pire. C'est, encore là, c'est tout le temps une question de cycle. Mais de façon générale, moi, je pense qu'on va finir l'année autour de 2,5%, ce qui est souhaitable. Les États-Unis sont à 2,6% actuellement. C'est à peu près là qu'on devrait être éventuellement. Là.
Merci d'avoir été avec nous. Bonne journée.
Bonne journée. Bye-bye.
Sylvain Charlebois, qui est le directeur du laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire de l'Université Dalhousie.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcand.
Maintenant, la Sûreté du Québec a arrêté 5 suspects. C'est une enquête concernant des décodeurs illégaux permettant d'aller chercher des signaux. Et donc, on vendait ces décodeurs et on faisait de l'argent avec ça. Danny Laflamme de la Sûreté du Québec est avec nous. Il est le coordonnateur à l'unité de récupération d'actifs criminels. C'est lui qui a mené avec ses collègues donc l'enquête qui a conduit à ces arrestations. Monsieur Laflamme, bonjour.
Oui, bon matin.
Peut-être nous expliquer d'abord en gros comment ça marche ces décodeurs puis comment c'est illégal.
Oui, ben dans le fond là, les décodeurs c'est qu'ils sont programmés pour avoir accès du contenu en ligne qui celui-ci a été volé au préalable. Donc c'est des décodeurs à la base qui peuvent être en vente dans certains magasins, mais c'est lorsqu'ils sont programmés puis qu'ils ont accès à ces signaux-là qui ont été volés, c'est là que ça devient illégal en soi.
Comment ils volent les signaux?
Ça peut être aussi simple que des gens qui ont des gros serveurs vont télécharger des postes de télévision en continu et par la suite vont rendre ça disponible à des réseaux comme ceux avec lesquels on a fait des arrestations hier. Et ces réseaux-là vont revendre ça à leurs clients là, via leurs décodeurs qui leur ont vendu au préalable.
OK. Lorsque je comprends, il y a 7000 personnes qui seraient abonnées qui auraient ces décodeurs-là.
Oui, minimalement, là, on avait une liste là, de clients de plus de 7000 personnes là, qui étaient abonnées les deux organisations.
Est-ce que c'est possible que j'ai acheté ça de bonne foi? Que je me suis dit, voilà quelqu'un qui m'offre, pour je pense c'est 25 $ par mois, plus le coût d'acquisition du décodeur, ça fait mon bonheur, puis j'aime mieux ça. Quelqu'un là, qui n'a pas d'intention malveillante, qui n'a pas l'impression d'acheter quelque chose d'illégal.
Ben, je vous cacherai pas que ces organisations-là là, avaient des sites Internet là, où tout semblait, on va dire, en première apparence légitime. Sauf que de payer 25 $ par mois pour avoir accès à 3 500 canaux de télévision, dont beaucoup sont payants à la base, c'est peut-être là que les clients devaient se questionner à savoir si oui ou non le produit qu'ils avaient entre les mains était légitime ou pas.
OK. Et... qu'est-ce qu'ils vont faire, ces clients-là? Est-ce qu'ils perdent finalement le signal? Ils ont plus accès à ces chaînes-là?
Ben, on travaille fortement là, pour, afin de couper les signaux. Bien évidemment, la technologie étant ce qu'elle est, c'est pas si facile que ça. Mais c'est clair qu'en ce moment, s'il y a des gens qui continuent à regarder le contenu via ces décodeurs-là, ben, ils sont en infraction, des infractions criminelles. Soit la possession puis l'utilisation du dispositif, qui sont des articles là, au code criminel, article 326, 327. Fait que bien évidemment, on demande à ces gens-là de cesser ça parce qu'ils sont en possession d'un bien fractionnel et de s'en départir là, d'une façon éco-responsable.
OK, mais je prends l'exemple très clair. Là. Une fois que vous arrêtez les suspects, là, est-ce que vous fermez, comme on dit, vous coupez le courant puis c'est plus accessible? Ou si j'ai le décodeur, ça marche encore?
C'est pas aussi simple que de couper le courant, là, parce que c'est via des serveurs qui peuvent se trouver un peu partout dans le monde. Mais il y a des démarches qui sont faites là, pour... couper le courant, comme vous venez de le dire.
OK.
Mais c'est possible que, malheureusement, ça refonctionne dans les prochains jours.
OK. Les 5 suspects qui ont été arrêtés, est-ce qu'ils sont connectés avec des organisations criminelles ou ils faisaient ça par eux-mêmes?
Il y a 2 membres là, qu'on peut dire là, qui avaient des liens là, avec des organisations criminelles, dont un membre en règle là, de Red Devil Quebec City, puis un ex-membre de ce groupe-là également.
Bon, je vous demanderai pas de me donner des grands secrets, mais là, vous avez arrêté ces revendeurs. J'imagine qu'il y en a d'autres.
Oui, c'est sûr qu'il y en a d'autres. Là. Regardez, là, on a travaillé sur deux cellules qui opéraient présentement au Québec, mais bien évidemment, il n'est pas possible qu'il y en ait un peu plus que ça en ce moment.
OK, parce que j'ai des auditeurs qui me disent depuis hier là, que ils sont propriétaires de décodeurs qui ne semblent pas reliés là, à Arubox puis Stalker, là, mais d'autres types de revendeurs, mais à peu près le même genre de forfait.
Oui, c'est possible, en effet. Là, nous, on s'était attaqué à ces deux cellules-là, mais je ne dirais pas qu'il y en a. Je ne peux pas vous dire à 100% qu'il n'y en a pas d'autres. Là, je me doute bien qu'il y en a d'autres là, en territoire québécois.
OK, merci, M. Laflamme.
Juste terminer, oui. En terminant rapidement, là, mais c'est ce côté-là de l'enquête, bien évidemment, avec quand même un côté très lucratif. Là, on s'en cachera pas. Là, on parle de plus de 7 000 clients à 25 $ par mois. Donc, c'est sûr qu'il y avait une facette de récupération d'actifs qui était faite. Puis on a réussi à bloquer là, 3 résidences. Et bloquer des comptes bancaires également, en plus d'aller saisir des véhicules et tout ça, type de produits de la criminalité.
Bon, vous posez une question qui va vous paraître bizarre, mais elle vient des auditeurs, fait que je pense que je vais faire le relais. 3 000 chaînes environ, est-ce que le signal était de qualité?
Quand même.
Ouais.
Quand même. C'était pas à 100%, là, mais quand même une très bonne qualité. Là. C'est sûr que ces organisations-là vont aller chercher des décodeurs de plus en plus performants pour pas qu'il y ait autant de différences.
OK.
Mais...
Parfait. Merci, M. Laflamme.
Bien, merci.
Merci. Au revoir. Bonne journée. Dany Laflamme, responsable de l'enquête, donc, à la Sûreté du Québec. On connaît Brigitte Alpin pour son combat contre les injustices fiscales. Elle a écrit des livres, des documentaires, elle enseigne, mais là, elle nous arrive avec un roman. Évidemment, la matière première reste la même. Brigitte Alpin, bonjour.
Bonjour.
Ça s'appelle L'Alerte. Pourquoi vous avez choisi la voie du roman d'abord?
Je pense que après 20 ans dans ce combat ou cette croisade contre l'injustice fiscale, j'avais l'impression qu'on avait peut-être atteint un plateau. Là, je commençais à parler avec des gens qui étaient déjà convaincus de la cause, puis je voulais aller parler avec d'autres personnes et je trouvais que ça n'existe pas un roman sur l'injustice fiscale dédié, même dans en tout cas dans toute la littérature francophone, j'aime dire que c'est le premier et je trouvais que avec ça peut-être qu'on pourrait aller chercher d'autres lecteurs, d'autres personnes à convaincre pour cette cause-là. Puis aussi, il y a certaines injustices fiscales qui se comprennent mieux avec la fiction. Donc, on peut pas, par exemple, avoir un milliardaire qui va venir parler de ses fling-flang d'impôts. Donc, on peut pas avoir un fiscaliste qui va venir dire comment il procède. Donc, je trouvais qu'à faire un roman qui est une fiction, évidemment, mais basée sur des faits, des lois fiscales réelles, qui, à la fin de la lecture, on peut se dire, ah, mais peut-être, elle vient dire que ça pourrait se faire. Je peux pas croire que tout ça pourrait se faire dans la réalité.
Je vais résumer rapidement, là, puis vous pourrez compléter, bien sûr. Là. Votre personnage est chef de cabinet du ministre des Finances. On est dans un Québec souverain qui vient d'être un pays. Et c'est sur le sens d'un trailer que vous nous proposez l'alerte. Là. C'est-à-dire qu'elle quitte de façon rapide, brutale, son environnement. On sent la déception. On vous imagine un peu, veut pas, dans ce personnage-là. Et là, il y a tout le recul du temps qui nous montre les magouilles qui se font, puis... On lit ça, là, puis je pensais à Pierre Fitzgibbon et à François Legault qui essaie de dire aux Québécois, soyez positifs, vous nous faites un portrait un peu sombre des magouilles de ceux qui nous dirigent.
Oui, et c'est... D'abord, merci beaucoup pour votre résumé, Paul. Je l'apprécie beaucoup, puis ça résume bien le roman, évidemment. Oui, c'est. Je pense qu'on est dans un contexte où est-ce que, non seulement au Québec, mais au Canada, à l'international, on est dans des situations... On est dans un état de guerre, là. On voit des gouvernements populistes, on voit... Donc, je pense que la réalité, elle est là. On voit, par exemple, on a vu avec plusieurs scandales, dont un la semaine passée, où est-ce qu'on voit de la mauvaise gestion des finances publiques. Je crois que les gens doivent avoir un portrait réaliste de la situation pour être bien informé puis prendre de bonnes décisions.
Mais on sent la déception. C'est-à-dire que le personnage a cru à la souveraineté, s'est dit ça va changer quelque chose. Puis là, on est en train de revirer ça en paradis fiscal. Mais le Québec puis le Canada sont déjà, à certains égards et pour certaines entreprises, des paradis fiscaux.
Oui, elle le dit dans l'alerte, Cécile, l'héroïne, le dit. Moi, je crois en... je crois à un Québec qui est capable de séparer. Donc, Cécile l'a dit et Brigitte l'a dit aussi. Je crois à ça. Je pense que c'est un projet qui est faisable au niveau économique. Moi, c'est une faisabilité économique que je vois là-dedans. Mais elle le fait via la transformation du Québec en paradis fiscal. Et évidemment, moi, je suis contre les paradis fiscaux. Fait que j'utilise tout ça pour démontrer que c'est, ça ne serait pas une bonne idée ni ici ni ailleurs. Et oui, elle est déçue du résultat de son projet. Et comme vous dites, c'est vrai que le Québec est déjà un paradis fiscal. Elle le dit dans le livre pour les entreprises, pour toutes les entreprises, évidemment, mais pour certaines grandes entreprises, elles ont droit même à un congé d'impôt sur les gros investissements qui va jusqu'à 150 millions par projet d'investissement en impôts et en fonds de santé. Donc, c'est beaucoup. Les petites et moyennes entreprises sont quand même taxées, imposées à un taux de 3,2%. C'est pas beaucoup, hein, au Québec, 3,2%. Donc, pour les entreprises, je pense qu'on peut dire que... je pense pas qu'on peut dire qu'on est déjà un paradis fiscal, mais pour certaines entreprises, on attire des entreprises qui veulent pas payer d'impôts, qui veulent profiter de grosses subventions au Québec.
Je lisais votre bouquin, puis on est en plein débat sur la santé, la nouvelle agence de santé, puis population qui vieillit, les listes d'attente, l'urgence, etc. Puis là, je veux rien trop gâcher, là, mais vous posez la question, est-ce qu'à un moment donné, la facture va être tellement élevée qu'on pourra pas se payer tous les services? Et là, vous allez plus loin là, de dire l'aide médicale à mourir, ça serait peut-être pas une option.
Oui.
Ça serait comme imposé.
Oui, j'ai trouvé difficile.
On est dans la fiction, là, mais quand même.
Oui, j'ai trouvé difficile d'amener ce sujet-là. Hein. Je l'ai fait, je sais pas si vous l'avez ressenti, pas, je l'ai fait avec des pincettes, puis vraiment de façon délicate.
Il y a un débat entre les ministres oui. Sur ça. Là, mais...
et oui, je trouve que les pharmaceutiques nous amènent dans une situation où est-ce que elles, pour faire de plus en plus de profit, nous attachent avec des médicaments qui prolongent la vie hein, de façon... chimique, si on veut. Et après ça, nous, les contribuables, on doit supporter ces personnes-là qui heureusement, peuvent vivre plus longtemps. Mais est-ce que nos finances publiques peuvent supporter tout ce système-là? Vous savez, les centenaires, hein, il y en a de plus en plus. Un centenaire, moi, mon père, il est décédé, ça fait pas longtemps, 95 ans. J'aurais voulu qu'il vive jusqu'à 150 ans. Je suis heureuse de ça, mais ça... C'est lourd sur les finances publiques, tout ce système où est-ce qu'on entretient longtemps des personnes malades, très malades pendant longtemps.
Pensez-vous qu'un jour on va en arriver là?
Ah, mon Dieu, je pense que oui. Je pense qu'on c'est un jour on va débattre en tout cas de ces questions-là. Mais je pense que oui. Je ne suis pas un futurologue. Là,
vous avez fait une réflexion inévitablement là-dessus.
Oui.
Là.
Moi, je crois qu'il y a des questions difficiles que les sociétés vont se poser peut-être plus rapidement qu'on pense même.
L'autre question qui est importante, c'est quand on écrit un roman, je viens de parler là, de la trame de fond, la justice fiscale, l'injustice fiscale, les ministres. Il y a un côté veut-veut pas... d'intrigue plus personnelle des personnages que votre personnage principal a un enfant, problème d'alcool, comment vous bâtissez ça là? C'est un peu contre nature là, habituellement les chiffres, les faits, pis c'est ça qu'on veut là vous allez ailleurs là.
Vous avez réfléchi beaucoup en lisant le livre parce que c'est exactement ce que j'ai trouvé très difficile, à un point où est-ce que j'ai été obligée de vraiment y aller comme une comptable. Moi, je suis comptable de formation. Je me suis fait des gros tableaux, puis j'ai comme listé tout ce que je voulais. Moi, ça fait 35 ans, je pense, à écrire un roman. Fait que je n'avais-tu des idées que je voulais mettre là-dedans? Fait que j'ai listé toutes les problématiques, dont la problématique sur les systèmes de santé. Donc, j'ai listé toutes les problématiques que je voulais mettre, puis je me suis construit une histoire qui permettait de amener ces problématiques-là de façon évolutive, sans trop fatiguer le lecteur. Puis tout d'un coup, rendu à page 100, 150, 100, le lecteur il est absorbé dans cette histoire-là, puis il est devenu comme un genre de spécialiste de ces problématiques-là ou de l'injustice fiscale sans s'en apercevoir. Et évidemment, j'ai trouvé ça extrêmement difficile parce que moi, comme comptable, comme fiscaliste, je dois laisser parler les faits uniquement. Je dois pas m'imaginer des choses. Et là, comme romancière, c'est c'était tout le contraire.
Mais là, vous devez mettre de l'émotion là-dedans. Oui. Hein? C'est comme n'importe quel genre de série, un trailer ou autre. OK, il y a l'action, mais ça prend de l'amour, ça prend un passé, ça prend des enfants, puis on sait... qu'on découvre au fur et à mesure de la lecture.
Oui, l'alerte qu'on lit présentement, c'est la troisième réécriture. Une des raisons pourquoi j'ai dû le réécrire, c'est que j'en mettais pas suffisamment. Donc, Anne-Marie Villeneuve de chez Druide me disait, Brigitte, ça, creuse-les davantage. Puis, à chaque fois qu'elle me disait creuser davantage, c'est justement une bulle d'émotion que j'osais pas percer. J'osais pas aller là. Donc,
par quoi? Par timidité? Par réflexe de dire... Habituellement, il n'y a pas d'émotion dans mes affaires.
Oui. Comme comptable de formation, je ne suis pas habituée dans mes écritures de mettre l'émotion. Et aussi, vous l'avez très bien dit, par timidité. Je me suis aperçue en écrivant. Je savais, mon père me l'avait déjà dit parce que je voulais devenir chanteuse. Puis il disait, mais comment tu vas faire, t'es gênée? Mais je pense que c'est un peu par timidité. Tu sais aussi, comment que mes émotions pourraient intéresser quelqu'un? Ça t'amène à te poser toutes ces questions-là durant 3 ans d'écriture et de réécriture. Et j'ai pleuré. Je vous en parle, j'ai émotif, j'ai pleuré.
Parce que vous avez mis, comme on dit, vos tripes sur la table en écrivant ça. Merci, ben. Je vais arrêter l'entrevue parce que je vois que ça vous touche vraiment. Merci beaucoup d'être venu ce matin.
Merci beaucoup.
Et disons que page après page, il y a de l'action là-dedans, en tout cas, ça c'est clair. Ça s'appelle L'Alerte de Brigitte Alpin. C'est publié aux éditions Druide. Là, on s'en va complètement ailleurs. On va parler de handball. Pourquoi? Parce qu'il y a une équipe qui a été sélectionnée pour participer aux championnats du monde qui auront lieu au mois d'août prochain en Chine. C'est pas rien, là, championnat du monde. Le problème, c'est que l'équipe doit trouver les fonds pour se rendre en Chine et participer à l'événement. Là, tu dis, comment ça se fait? Il n'y a pas une fédération. Pourquoi il faut aller chercher l'argent? Éric Choquette est avec nous. Il est l'entraîneur de l'équipe juvénile de Handball Canada. Monsieur Choquette, bonjour.
Bonjour, M. Arcand. Merci pour la tribune.
D'abord, je vais essayer de comprendre, là. Votre équipe a été sélectionnée, donc, pour participer à ces championnats du monde. Pourquoi il faut faire une opération de sociofinancement? Pourquoi vous devez trouver l'argent pour payer les factures?
Premièrement, notre fédération, la Fédération canadienne, n'a pas les subventions nécessaires pour couvrir cette dépense-là. Donc, en partant, on est dans un cercle vicieux. Vu qu'ils ne reçoivent pas les subventions nécessaires, mais on n'est pas capable de se rendre jusqu'au bout. C'est la même problématique que les filles seniors ont eu en octobre, que c'est un débat qui traîne depuis des lunes, que le financement au niveau des fédérations, surtout pour les activités, quand on se rend comme au championnat du monde, il devrait y avoir des postes spéciaux là pour ça. Si ça ne vient pas de la fédération, mais ça devrait sortir du programme d'aide aux athlètes ou du comité olympique. Là,
OK, bon.
Au Sport Canada.
OK, mais là, c'est ça, là. Mettons que la fédération n'a pas d'argent, mais il y a quand même d'autres structures de financement qui existent dans le sport amateur au Canada?
Oui, il y a d'autres structures. Puis là, présentement, on cogne à toutes ces portes-là, autant du côté provincial, là, le ministre des Sports, ou du côté fédéral avec la ministre des Sports aussi, Carla Qualtro, ou avec les programmes de Sport Canada. Mais présentement, on n'a aucun retour d'appel. On se cogne à des portes. Le comité de parents qui est en place travaille fort. Nous avons envoyé des lettres à gauche et à droite. Là, je me suis mis sur le téléphone dans les dernières journées, après mes journées de travail. Donc, c'est vraiment. Puis tout ce beau monde-là, c'est tout du bénévolat. La Fédération canadienne, les gens sont bénévolats. Donc, c'est là que le fait qu'avoir des gens bénévoles, les dossiers de financement avancent moins vite.
Est-ce que j'ai bien compris, là, puis c'est pas ça, vous me le direz. Mettons que vous trouvez l'argent. Mettons que vous allez au championnat en Chine, puis que votre équipe performe bien. Est-ce que c'est vrai qu'à partir du moment où vous avez performé un championnat comme ça, mondial, vous pourriez, après ça, avoir du financement?
Je ne pourrais pas entrer dans tous les détails administratifs puis le niveau de classement, mais je sais que si, advenant que l'équipe se classait dans les 16 premiers, si je ne me trompe pas, c'est là que les rouages administratifs embarquent puis qu'on recevrait des bourses de ce côté-là.
OK, autrement dit, si vous avez l'argent pour partir puis y aller puis vous performez, ils vont vous aider, mais ils ne vous aideront pas pour une première fois.
Pour l'instant, vu que c'est tout du silence radio, mais pour l'instant, c'est en plein ça. C'est de pouvoir... C'est comme dans un cercle vicieux, comme je disais. C'est pas d'argent, on peut pas performer. Puis pour essayer de performer, mais il faut pouvoir se rendre.
Et l'équipe qui doit se rendre est composée de joueurs du Québec, je comprends, là.
Oui, l'équipe nationale présentement est composée, je dirais, 90% de gens du Québec. C'est des jeunes filles qui sont âgées entre 16 et 18 ans. Donc, elles sont toutes aux études, soit à l'école secondaire ou première année cégep. Donc, financièrement parlant, c'est les parents qui supportent. Ou sinon, les jeunes demoiselles, mais ils travaillent avec en parallèle avec les écoles et les entraînements et les matchs.
Et c'est pour ça qu'on est visiblement très bon au handball, parce qu'on a des sports-études qui l'offrent?
Au Québec, en plein ça. Parce que s'il n'y avait pas de sports-études, présentement, on n'aurait pas d'handball au niveau du Québec.
OK, puis là...
C'est quand même un sport olympique, hein, faut le dire.
Oui, oui, non, je le sais. Puis c'est pendant que vous me parlez, il y a d'autres parents qui m'écrivent là, dans d'autres disciplines qui vivent pas mal la même chose. Donc, comment vous allez faire pour... je comprends que vous cognez à des portes, là, mais faites-vous du socio-financement? Comment vous allez trouver l'argent pour aller en Chine au mois d'août?
Là, présentement, on frappe aux portes des compagnies pour trouver des commandites de ce côté-là. On est parti à un make-a-champ pour essayer de ramasser des sous, mais c'est pas évident d'avoir les plateformes pour, parler du sujet. Donc, c'est pour ça qu'un matin, on apprécie énormément l'opportunité. Mais sinon, on essaie d'utiliser les réseaux sociaux et ces choses-là.
Ben, bonne chance à vous, puis merci d'avoir pris ce temps-là.
Je vous remercie, bonne journée à votre équipe.
Okay.
Au revoir.
Éric Choquette est l'entraîneur de l'équipe juvénile Les Filles au Handball Canada. Ils veulent aller, puis ils sont retenus pour le championnat mondial en Chine.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.